Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il nous faut veiller avec grande attention sur le thème, l'idée centrale des textes liturgiques du carême. Une des choses que vous pouvez faire, c'est très intéressant de faire, c'est, je vous l'ai déjà conseillé plusieurs fois pendant le carême, de lire les textes liturgiques de chaque jour, une messe propre pour chaque jour du carême, et de voir le lien qui existe entre l'Épître et l'Évangile pour chaque jour. Il y a un lien à chaque fois, il faut le trouver. Et le lien aujourd'hui est très net. Le bon Dieu va nous mettre devant l'image du paradis, l'image de notre salut, pour nous rappeler que la chose la plus importante pour laquelle nous sommes ici sur la terre, c'est notre salut, le salut de notre âme. Il dit d'abord dans l'Épître aux Thessaloniciens de Saint Paul, et dit que notre Seigneur, Saint Paul plutôt, nous dit que le bon Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Sanctification, ça veut dire quoi? Appel à la sainteté. Si vous ne devenez pas parfait, vous ne possédez pas le royaume des cieux. Le paradis est pour les saints, pour les gens qui ont visé cette perfection. Et les gens qui ne sont pas assez saints au moment de leur mort, même s'ils sont en état de grâce, donc ils peuvent être dans le paradis bien sûr, ils passeront un temps assez long et rigoureux purgatoire, justement pour apprendre à voir obtenir en nous, en eux plus exactement, ce désir de sainteté. Et dans l'évangile du jour, c'est la même chose. Pour bien nous montrer ce que nous visons, notre Seigneur Jésus-Christ va se transfigurer devant ses apôtres. Il va leur montrer une toute petite parcelle de sa divinité. Et cette toute petite parcelle de sa divinité, la divinité de notre Seigneur qu'ils vont voir, est tellement extraordinaire qu'ils vont tomber la face contre terre, complètement paniqués par ce qu'ils ont vu. Parce que l'homme ne peut pas voir Dieu ici-bas sans mourir. Alors si on expliquait un petit peu ça. Donc Saint Paul nous dit aux Thessaloniciens que le bon Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Le bon Dieu donne à chacun d'entre nous les grâces dont vous et moi, nous avons besoin pour devenir saints autant que le bon Dieu le veut pour chacun d'entre nous. Le degré de sainteté que le bon Dieu attend pour chacun d'entre nous est différent. Les moyens de sainteté sont aussi différents. Pourquoi? Parce que chacun est différent. On le voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui aussi. Il n'y a pas d'égalité devant Dieu. C'est pour ça que le bon Dieu ne prend pas tous les apôtres au sommet du tabou, il en prend trois. Il en choisit trois parce qu'il y en a trois qu'il aime plus que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Ça veut dire que Dieu aime tout particulièrement certaines âmes plus que d'autres. Tout en s'engageant, bien sûr, à donner à tout le monde, y compris aux âmes peut-être moins généreuses, les grâces dont ces âmes ont besoin pour aller au ciel. Et il va choisir Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Saint-Pierre parce qu'il deviendra le premier pape, Saint-Jacques parce qu'il sera le premier apôtre à donner sa vie pour notre Seigneur, et Saint-Jean parce que Saint-Jean était l'apôtre que Jésus aimait de façon toute particulière parce qu'il était l'unique apôtre vierge, l'apôtre qui n'était pas marié. Alors, comment savoir si nous sommes dans cet état de grâce que le bon Dieu nous demande? Eh bien, je pense qu'il y a des signes, il y a quatre par lesquels nous pouvons reconnaître, autant que faire se peut, que nous sommes là où bon Dieu nous demande et que nous sommes entre les mains du bon Dieu, donc dans sa charité, dans son état de grâce. Et si ceux qui ont fait les exercices de Saint-Ignace les connaissent bien, Saint-Ignace en parle beaucoup, dans les règles de discernement des esprits surtout. Le premier de ces signes, nous dit Saint-Ignace et nous enseigne l'Église, c'est la joie. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ. La droite de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt sur la croix pour ressusciter le jour de Pâques et nous rouvrir par la montée au ciel le jour de l'ascension, nous rouvrir les portes du ciel. Donc le premier signe qu'il faut avoir en nous, c'est la sainteté. Tous les saints étaient des gens joyeux. Cette joie, bien sûr, cette joie dont je parle n'est pas l'excitation du monde moderne. C'est la joie, une joie beaucoup plus profonde, une joie qui est hantée, si vous voulez, qui est centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Alors posez-nous cette question, est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je porte ma croix joyeusement? Oui, les choses qui me frappent le plus dans le monde moderne, et c'est la tristesse de ce monde. Le monde moderne, les gens du monde moderne sont tristes comme des balais encore une fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'essentiel. Ils ont perdu le nord. C'est comme si vous voulez un capitaine de navire qui est au milieu de l'Atlantique et qui regarde sa boussole, il n'y a plus d'aiguille. Il ne sait plus où il va. Il y a trop de nuages, il ne peut pas voir, il ne peut pas se diriger d'après les étoiles, il n'y a plus rien, plus rien. Il est complètement perdu. Et il se décourage. Alors, je comprends que les gens du monde se découragent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur compte en banque et leur plaisir mondain, c'est tout ce qu'ils ont. Qu'un mondain se décourage, tout à fait normal. Ça serait même étonnant qu'il ne soit pas découragé, qu'il n'ait pas cette tristesse. Et qu'un catholique se décourage, alors c'est autre chose. Parce que nous, catholiques, mes chers amis, nous avons absolument tout ce dont nous avons besoin. Nous avons le très saint sacrement, nous avons la confession, nous avons la messe, la sainte messe, nous avons tout le catéchisme pour nous. Nous avons cette espérance, cette vertu d'espérance qui nous oblige à relever la tête de le paradis où le bon Dieu nous attend. Donc un catholique n'a jamais le droit de se décourager parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour lui sur la croix. Si notre Seigneur n'était pas ressuscité entre les morts, le troisième jour, après le jour de Pâques, ah oui, nous pourrions nous décourager. Mais il est ressuscité. Et donc, le découragement ne doit jamais exister dans l'âme d'un catholique, même après le péché. Mon Dieu n'a jamais dit qu'il fallait se décourager après le péché. Même après le péché, qu'est-ce que demande le bon Dieu à ses soldats? Relevez-vous, reprenez vos armes, reprenez le combat tout de suite, c'est ce qu'il nous faut faire. Donc le premier signe qu'il nous faut chercher, mes bien chers frères, c'est justement ce signe de la joie. Et la joie va entraîner le deuxième signe, la paix. Une âme joyeuse est une âme pacifique. Bienheureux les pacifiques, dit notre Seigneur. Une âme joyeuse est une âme pacifique, parce que c'est une âme qui est dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel est le signe de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ? Encore une fois, c'est la croix, mes bien chers frères. Donc la paix de notre cœur, la paix qui est en nous, doit être une paix fondée, justement enracinée dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, on peut comprendre la tristesse des gens du monde moderne. Ils ont perdu la joie surnaturelle. On peut comprendre aussi parfaitement la confusion du monde moderne, parce qu'ils n'ont plus la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont plus la paix de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour nous d'entre les morts. Mais nous, la paix, nous devons l'avoir, puisque nous croyons en Dieu, nous avons la foi, l'espérance et la charité. Donc nous devons avoir, nous devons garder en nous cette paix extraordinaire. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, et non pas la paix du monde. La paix, encore une fois, fondée sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Le troisième signe, c'est la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, je suis la lumière du monde. Et il nous demande à nous d'être aussi des lumières. Et que disent-ils sur la lumière? Parce que dans l'obscurité, on a un candélabre qui brûle. On ne garde pas, nous dit notre Seigneur, on ne garde pas le candélabre sous le boisseau. On le met sur la table pour que tout le monde puisse voir la lumière et que la lumière puisse s'éclairer. Donc nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la lumière. Dans le monde, ils ont la tristesse, ils ont la confusion, ils ont l'obscurité. Ah, évidemment, ils ne voient plus rien parce que justement, ils ont perdu notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ils sont dans l'obscurité la plus complète. Je comprends donc parfaitement que des païens tournent autour d'eux-mêmes, se centralisent complètement sur eux-mêmes, sur leur nombril, parce qu'ils ont perdu notre Seigneur. Et encore une fois, nous qui avons notre Seigneur, nous qui avons les sacrements, nous qui avons la Sainte Communion, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, n'avons jamais le droit de ne plus être un flambeau dans le monde moderne, devant le monde moderne. Qu'est-ce que le bon Dieu demande à ses soldats? Des flambeaux. Des flambeaux pour éclairer ce monde de ténèbres qui vit sans notre Seigneur. Et le quatrième signe par lequel nous pouvons reconnaître que nous sommes en état de grâce et que la grâce du bon Dieu, encore une fois que nous sommes dans la sainteté du bon Dieu, c'est l'attraction vers le beau. La beauté est quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Regardez la laideur du monde moderne. Comparez une jolie cathédrale gothique, une magnifique abbaye romane du XIIe siècle, avec ces espèces d'horreur qu'il y a partout. Le monde moderne est incapable de construire quelque chose de beau. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le prince de la beauté, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, encore une fois, nous savons notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons avoir une âme illuminée par cette racine de la beauté qui est notre Seigneur lui-même. Voilà pourquoi il est tellement important, mes bien chers frères, dans nos familles, d'entourer nos enfants de beauté. La révolution le sait. La révolution le sait et fait tout pour justement entourer nos enfants de laideur. parce que les deux va avec le démon. Donc attention à, dans nos maisons à ne pas corrompre, salir l'âme de nos enfants, l'intelligence de nos enfants, justement par des choses laides, que ce soit en matière artistique, que ce soit en matière de dessin, en matière de tableau, en matière de musique. Protégeons l'âme de nos enfants. Protégeons l'âme de nos enfants dans la beauté. Comment voulez-vous qu'un jeune, par exemple, qui écoute de la musique rock ou du pop ou de la musique moderne de ce genre, et comment voulez-vous qu'il aime la beauté? C'est impossible. Comment voulez-vous qu'il traduise la beauté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui devrait avoir en lui par la grâce sanctifiante, s'il est incapable de manifester, cette beauté par les choix qu'il fait dans la vie de tous les jours? Donc on peut dire que, on peut aller jusque-là, je crois que on peut suspecter que quelqu'un est en état de grâce en voyant justement qu'il aime la beauté. Si quelqu'un, au contraire, aime les choses laides, aime les choses mondaines de ce d'ici-bas, on peut suspecter qu'il n'est pas en état de grâce, absolument évident. Donc essayons, admettez, vérifiez, mes bien chers frères, que ces quatre signes sont en vous, vos parents, pour qu'ils puissent après de vous passer à vos enfants. Que chez vos enfants, il y ait cette joie, cette paix, cette lumière et cette attraction vers le beau. On voit très bien, par exemple, quand on visitait, par exemple, une belle église du Moyen-Âge, il y a une telle beauté qui ressort de ces vieilles églises, ces vieilles pierres. Mais tout de suite, on se rend compte que c'est un lieu de prière. Même les païens se rendent compte. Même les païens corrigent un petit peu la tenue de souvent dans une église moderne, dans une église ancienne, plus ou moins, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose là qui n'est pas d'ici-bas. Et donc, il faut que notre âme soit comme cela. Il faut que si le bon Dieu ouvrait notre âme, pour voir notre âme, il faut qu'il puisse voir cette beauté, cette paix, cette joie et cette lumière. Au contraire, si notre âme vit dans l'état du péché mortel, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce que votre Seigneur Jésus va-t-il trouver? Que va-t-il trouver dans notre âme? Il va trouver l'obscurité, il va trouver la confusion, il va trouver la tristesse, il va trouver l'attraction vers le lait. Nous sommes devant un petit peu, encore une fois, comme les apôtres au sommet du Tabor. Ils voient notre Seigneur Jésus qui se transfigure, ses vêtements deviennent comme la neige, blanc comme la neige, son visage rayonne comme le soleil après-midi. Et alors qu'est-ce que disent les apôtres? Seigneur, il est bon pour nous, notre ici. Ils voient cette beauté, cette bonté, cette lumière, cette paix, cette joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout de suite, ils veulent qu'une seule chose, rester avec notre Seigneur. Il est bon pour nous, Seigneur, d'être ici. Si vous voulez, montons trois tentes, une pour vous, une pour Élie, une pour Moïse. La loi, les prophètes sont là aussi. Et donc, c'est comme ça, mes bien chers frères. Il faut que notre âme soit comme la transfigurée par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que les gens du monde puissent voir cette divinité qui doit être dans notre âme. Et on entendra à ce moment-là cette voix du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complaisances. » Écoutez-le. Il faut que notre Seigneur Jésus-Christ puisse dire de chacun de nous dans le monde moderne, « Voilà, celui-ci est mon Fils adoptif bien-aimé, écoutez-le. Regardez comme il vit, vivez comme lui. Regardez comme il pense et pensez comme lui. Regardez comme il agit, agissez comme lui. Regardez comme il éduque ses enfants, éduquez les vôtres comme il le fait lui-même avec les siens. » Voilà ce que nous devons prêcher à nos fidèles, mes bien chers frères. Est-ce que vous devez prêcher à vos enfants? Est-ce que nous devons prêcher tous au monde moderne? Il faut que lorsque les gens nous voient vivre, il faut que lorsque les gens nous voient nous comporter dans la vie de tous les jours, il faut qu'ils puissent se dire, il y a quelque chose là. Cette personne est différente. Cette personne est différente et c'est... Et on le voit parfois, nous sommes obligés d'être dans des milieux complètement païens. On voit parfois des gens qui cherchent encore le vrai, et voyant un catholique qui vit comme catholique, immédiatement est attiré comme la limaille de fer est attirée par les mains pour aller vers cette personne. La transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ représente donc aussi l'âme en état de grâce. Il représente aussi, ça il ne faut pas l'oublier non plus, il représente aussi l'Église catholique, ça symbole de l'Église. L'Église est divine, mes bien chers frères. L'Église ne peut pas être détruite comme personne ne peut détruire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, les païens, les juifs ont essayé de détruire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont crucifié notre Seigneur. Ils n'ont pas pu détruire cette divinité. Et même sur la croix, même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était transpercé par les trois coups de la passion, et bien même à ce moment-là, il avait encore la grâce sanctifiante. Il avait encore la vision béatifique. Il voyait la divinité. Il était la divinité. Même si notre Seigneur Jésus-Christ semble cacher sa divinité aujourd'hui, eh bien, il est toujours dû attention. N'oublions jamais ces choses-là. Nous sommes encore une fois, c'est une image très, très utile, utilisée plusieurs fois dans l'Évangile, comme les apôtres de la barque. Il y a une tempête épouvantable. Le vent souffle, les vagues se creusent et l'eau passe par-dessus bord. Alors on panique complètement. On dit, mais mon Dieu, faites quelque chose, qu'est-ce qu'il fait notre Seigneur? Il dort. On ne comprend plus rien. Et qu'est-ce qu'il fiche à dormir? Pourquoi dort-il? Qu'est-ce que notre Seigneur fait? Pourquoi est-ce qu'il ne lève pas? Il dort. Il se dit, bon, il dort, évidemment, moi j'aimerais bien qu'il se réveille un peu, mais enfin, il est là. C'est ça qui compte. Et bien, on se décourage. Et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait, il dort. Et puis, au moment précis, on va couler, juste avant qu'on coule, il se réveille. Et à ce moment-là, il se met à la tête de la barque, il donne des ordres pour que ça s'agisse, que les vents s'arrêtent de souffler, pour que le calme revienne. Et après, pour nous faire participer à sa victoire, il nous fait couper pour les bloquer dans le navire. Bien sûr, cher, mais bien, cher frère, c'est ça notre vie de tous les jours. Nous sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ et cette transfiguration de notre Seigneur représente justement la transfiguration de l'Église. Même si l'Église se réduit, humainement parlant, se réduit un peu à une peau de chagrin. Rappelez-vous cette prédiction de Cardinal Pi, que je vous cite souvent, que l'Église se réduira à des dimensions domestiques. C'est exactement ce que nous voyons. Et même si il n'y a plus que des petites taches de chrétienté un peu partout dans le monde, par-ci, par-là, quelques familles qui gardent encore la foi, si ces familles ont ces quatre signes, mes bien chers frères, si ces familles ont la paix et la joie, pardon, si ces familles ont la paix, la joie, ont la lumière et ont la représentent la beauté incarnée de notre Seigneur Jésus-Christ, alors ces petites taches de chrétienté dans le monde moderne seront comme des feux brillants qui vont attirer les âmes. Et les âmes vont être de plus en plus attirées par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix. Voilà ce qu'il faut demander. Il faut demander, mes bien chers frères, de devenir comme des autres Christ. C'est ce que nous demande Saint Paul. Devenir comme des autres Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ demande à s'incarner en nous par l'incarnation, par la grâce sanctifiante, et vivre en nous. Et puisque notre Seigneur Jésus-Christ vit en nous, il voudrait que nous soyons comme lui-même a été. Alors demandons cette grâce. Et demandons cette grâce, bien sûr, pas celle qui ne s'est jamais découragée, celle qui a jamais perdu l'espoir, la Sainte Vierge Marie. Même dans les pires moments, même au moment où elle était avec Saint Jean sur les petites rues qui montaient vers le calvaire et qu'elle a vu son fils portant sa croix, chargé de la croix, couvert des conséquences du péché, des crachats et de la poussière du chemin. La tradition dit que son cœur a tellement été broyé par cette vision qu'elle s'est évanouie à cet endroit-là. Et les croisés ont construit à cet endroit-là, même avant, je crois, il y a une petite chapelle, la chapelle du Spasme de la Sainte Vierge, pour rappeler justement l'évanouissement de la Sainte Vierge Marie. Mais elle a été ranimée par Saint Jean, elle est allée jusqu'au bout de son calvaire, elle est allée jusqu'au chemin de croix, jusqu'à la fin, au bout du chemin de croix. Qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin de croix? Il y a la croix. Et elle était encore au pied de la croix, justement pour nous guider et pour nous aider. Et si la Sainte Vierge est au pied de la croix, c'est pour nous aider à monter nos regards vers la croix. Voir notre Seigneur Jésus-Christ crucifié pour nous. Et derrière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié pour nous, voir la gloire du paradis. Voir la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui Dieu du ciel se transfigure pour nous. Naturellement, nous ne pouvons pas tout voir actuellement. On ne peut pas encore voir complètement la divinité de notre Seigneur. C'est pour ça que notre Seigneur, avec les trois apôtres qu'il avait choisis, a montré qu'une toute petite parcelle de sa divinité. Pour nous, c'est encore plus dur. Pourquoi? Parce que les apôtres, ils voyaient au moins l'humanité de notre Seigneur. Nous, on voit ni la divinité, ni l'humanité. On voit au moment de l'élévation, la Sainte Hostie, on voit une hostie qui apparaît être, qui semble être une hostie de pain. On voit un calice d'or qui s'élève, mais Il nous faut comprendre, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, c'est la substance de notre Seigneur Jésus-Christ, substance de la divinité, le même Dieu, le même corps, le même sang, la même divinité que les apôtres ont vu se transfigurer au sommet du calvaire. Alors, justement, lorsque le prêtre élève la Sainte Hostie, élève le calice, alors il faut nous accrocher, mes bien chers frères, à cette hostie, nous accrocher à ce calice et ne jamais oublier que tant que la Sainte Eucharistie sera là, tant que notre Seigneur Jésus-Christ pourra nourrir les âmes par la Sainte Eucharistie, alors nous aurons justement tous les moyens de retrouver cette paix, cette joie, cette lumière, cette beauté que notre Seigneur Jésus-Christ seul peut donner. Et c'est ce dont le monde a plus besoin. Le monde a besoin de ça, mes bien chers frères. Le monde a besoin de gens qui, illuminés par notre Seigneur Jésus-Christ, oblige littéralement les gens du monde moderne à se lever de la fange, de la boue dans laquelle ils vivent, pour lever les regards vers le ciel. Ils ne verront à ce moment-là qu'une toute petite partie de la divinité de notre Seigneur. Mais ils entendront peut-être à ce moment-là cette voix de notre Seigneur, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Voilà ce qu'il faut demander. Et nous demanderons toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Elle ne s'est jamais découragée. Jamais elle n'a douté. Jamais. Le bon Dieu n'a pas permis que notre Sainte Vierge puisse douter. Alors demandons-lui de rester à côté de nous, comme un petit enfant qui a peur dans le noir parce qu'il ne sait plus où aller. Alors il appelle tout de suite sa mère, il prend la main de sa mère, et même s'il ne voit rien du tout parce qu'il est dans l'obscurité, il sait que tant qu'il a sa main dans celle de sa mère, il n'y a rien à craindre. Soyons comme un petit enfant, prenons notre Sainte Vierge Marie par la main et suivons-la pour qu'elle nous amène à la croix et depuis la croix à la résurrection. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.